One, two, ten, check. It's okay. That's it, man.
Provoscopie, l'émission politique de divergence aux commandes le loup, le renard et la bolette. Allez, une petite dernière pour la route et après promis, l'antre des bolettes s'ouvrira à la démocratie de proximité au sens noble du terme. Enfin, on vous en reparlera, c'est un peu plus tard. En attendant, pour la dernière, avant que nous ne nous évanouissions dans les limbes de vacances printanières, nous avions convié l'homme qui aurait fait l'histoire si l'histoire avait bien voulu de lui. Je veux parler du leader des écolos, vous savez, l'homme qui a vu l'homme qui a vu la femme. Et il s'en est pas remis. Jean-Louis Roumégas était notre invité, mais c'est Manu Reynaud qui le remplace, on va dire, en tant que secrétaire régional des Verts. Il y a une logique là-dedans, et on en excuse tout à fait Jean-Louis, puisque conseil municipal à Montpellier au lendemain des régionales, celui qui était absent, et là, il était tué. Oui, là, ça pouvait pas le faire, là. Ah, salut le renard.
Bonsoir.
Salut la bolette.
Bonsoir.
Et salut Manu, secrétaire régional donc des Verts. Ensemble, nous allons revisiter l'histoire du temps présent. Nous évoquerons les atermoiements des uns et des autres au lendemain des régionales. Et parmi eux, celui qui n'arrête pas d'atermoyer, là, René Revol, le grand coordinateur du Front de Gauche, qui a disparu dans les limbes de l'histoire. Nous l'avions invité, il n'a pas daigné répondre, peut-être qu'il n'a pas la culture, la civilisation, vous savez, comment on appelle ça ? La politesse. Mais ça, la politesse, c'est le plaisir des rois, non ? À croire que les auditeurs de Divergence ne l'intéressent qu'en tant que détenteur d'un bulletin de vote, nous saurons nous en souvenir en temps voulu. Et puis, nous aurons une pensée émue pour le conseil municipal qui se réunit en ce moment même. Et d'ailleurs, c'est presque une première sur Divergence. On est branché en direct sur le conseil municipal. On a des taupes là-bas. On pourrait être informé en direct de ce qui se passe. Raison pour laquelle aucun socialiste fréchien n'est autour de cette table. Mais là, nous leur pardonnons. Ils jouent à 7h leur délégation. Surtout, nous gloserons sur l'appel du 22 mars que Dany l'ex-rouge a lancé l'autre jour. Enfin, les bolettes se projetteront vers l'avenir incertain de présidentiel qui annonce comme les prémices d'une histoire à rebours. L'appel du 22 mars pourrait peut-être conduire à un 21 avril à l'envers, comme un joli coup de boomerang. Enfin bref, comme d'hab, de quoi bavarder pendant 90 minutes. Et maintenant, ça va être place au palabre.
Divergentes et divergents, vous avez précieusement rangé votre carte d'électeur, à moins que vous ne l'ayez jetée dans les poubelles de l'histoire. Pas grave, vous direz que vous l'avez perdue. Cela vous permettra de vous refaire, à l'occasion, surtout une virginité peut-être. Quoi qu'il en soit, vous le savez, à Provoscopie, rien ne peut se faire sans l'Uchronie du loup. Et cette semaine, les méandres du temps se seraient télescopés. Oui, télescopés. L'Uchronie serait rattrapée par le Chronos. L'avenir ne serait-il qu'un long passé ? Comme le sous-entendent les Bretons. Qu'en est-il, le loup ?
Écoute, au lendemain des régionales, lundi dernier, chacun s'accordait sur une chose largement galvaudée, l'abstention aurait été considérable. De plus, le Front National renaîtrait de ses cendres. Autrement dit, rien n'irait plus. Alors, dans les cerveaux des caciques de la République a fleuri une belle chinoiserie, une embrouille en langage populaire, la faute en encombrée à la déliquescence des vieux partis politiques français. Des partis nés au cours du siècle des excès, le XXe siècle. L'idée n'est pas si neuve que ça. Déjà en 2007, un Béarnais, qui se prenait pour D'Artagnan, quand il n'était qu'un Don Quichotte, avait ouvert la brèche en créant un melting pot centriste qui fit croire qu'il pourrait être démocrate. Oui, je veux parler du modem. Et ça fait quoi ? Ça fait pchit ! comme en honorait l'incroyable Chirac. Il est vrai qu'il serait bien placé pour en parler, lui qui fut à l'initiative du Parti unique de la droite en 2002, l'UMP. Mais aujourd'hui, chacun y va de sa trouvaille partitocratique. À l'italienne, faute de savoir, pouvoir, vouloir singer nos voisins d'Amérique. Et c'est selon. Entendez-vous dans nos campagnes mugir, ce féroce Georges Frêche prêcher à longueur de médias la rénovation jaurésienne d'un socialisme en désuétude? Et Ségolène de Gloucédèse, empreinte qu'elle est de désir d'avenir. D'autres s'y sont essayés en fondant un front de gauche unitaire dans la désunion électorale. Et ils ont fait quoi? Ils ont fait pchit, et ben voilà. Et puis voilà Dany Le Rouge devenu vert. Vous savez, le libre qui se démocratise, enfin l'homme qui, de libertaire, a frayé jusque sur les rives des libéraux, oubliant que les élections ne sont que des pièges à cons. Et de suggérer à ses amis les Verts de dissoudre dans un grand bazar, alter je ne sais quoi, pour commémorer, pourquoi pas célébrer, un certain 22 mars 1968. Et chacun de se proclamer l'unitaire de l'autre. Pourtant, alors que la droite s'apprête à se diviser cordialement pour constituer de futures réserves de voix improbables, l'idée de rassemblement à gauche n'est probablement pas aussi saugrenue qu'il pourrait y paraître. Et dans la perspective des présidentielles, de rééditer un 21 avril à l'envers, sachant que le Front National, unitaire lui, pourrait bien approcher la barre des 20%. On retrouverait alors un duel gauche-FN, revanche de 2002. Pour une fois, l'affaire ne relève pas de l'Uchronie, mais bien d'une réalité potentielle. Et dans ce cas-là, ce serait la droite qui ferait, vous savez, pchit. Oui, vous l'aurez compris, la chose serait belle, mais relève aujourd'hui encore de l'utopie. À moins que, quoi qu'il en soit, il reste environ 18 mois à nos caciques de la République pour franchir le Rubicon. L'occasion est trop belle. S'ils la ratent, alors le peuple de gauche pourrait bien finir par s'énerver et prendre les choses en main directement. Mais là, ce n'est encore une fois qu'une uchronie. Et comme d'habitude, si tout n'est pas entièrement vrai, rien n'est tout à fait faux. Merci, maintenant place au débat, mais avant, une petite distraction 68arde en mémoire de Dany Le Rouge dans la série Souvenirs, souvenirs.
Ta mère t'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. T'aurais mieux fait de le faire, tu serais beaucoup mieux. Comme ça, on serait les seuls à se faire remarquer. On serait les seuls à élucubrer. Nous, on se fout pas mal de ton goût pour les fleurs. On porte depuis longtemps les chemises de nos sœurs. Nous ferons ce qu'il faut pour être les premiers. Ta cage est déjà réservée.
Moi qui avais déjà tant d'ennuis, les problèmes se mettent à m'ancrer. Avec leurs cheveux longs, on dirait des filles, ils me font rire, hé hé hé, on le fait rire, hé hé hé.
Ta mère t'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux, t'aurais mieux fait de le faire, tu serais beaucoup mieux. Comme ça, on serait les seuls à se faire remarquer, on serait les seuls à élucubrer. On est allés ensemble dans tous les monoprix, sans trouver de pilule comme tu nous l'avais dit. Ne doit pas se rendre en haut lieu où tu les impressionnes un peu.
Vous pouvez bien me chambrer, mais si vos mères avaient connu la pilule, vous ne seriez pas là à me casser les pieds. Laissez-moi rire, hé hé hé.
Laissons-le rire, hé hé hé. Ta mère t'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. T'aurais mieux fait de le faire, tu serais beaucoup mieux. Comme ça, on serait les seuls à se faire remarquer, on serait les seuls à élucubrer. On serait maintenant vedette à l'Olympia, on casserait pour nous les mêmes fauteuils que toi. On gagnerait aussi, tu sais, beaucoup d'argent, on t'accompagnerait plus très longtemps.
Pourquoi vous voulez devenir millionnaire? Oh, vraiment, vous me décevez. Moi qui suis si désintéressé, laissez-moi rire, hé hé hé.
Laissons-le rire, hé hé hé.
Laissez-moi rire, hé hé hé.
Laissons-le rire, hé hé hé.
On est bien sur Divergence à Provoscopie. Passons maintenant, s'il vous plaît, aux choses sérieuses. En la compagnie de celui qui a failli, ou de ceux qui ont failli, je veux parler des Verts, et là, en la personne de Manu Reynaud, le secrétaire régional des Verts. Eh bien oui, à l'origine, Jean-Louis Roumégas, qui était la tête de liste, enfin, au niveau de Europe Écologie, porte-parole nationale des Verts, ben, il était poursuivi par des porte-flingues sortis de cabinets noirs, cernés par des révolutionnaires qui font la révolution comme on joue aux soldats de plomb. Il a bien failli devenir président de région. Enfin, vous savez, ceux qui font la révolution comme des soldats de plomb, je veux parler de René Revol et de ses petits camarades. Mais c'était dans une vie parallèle, dans les recoins d'un temps que seuls les moins de 20 ans connaîtront peut-être un jour. Quoi qu'il en soit, divergentes et divergents, nous vous proposons un triple entretien. Tout d'abord, nous referons l'histoire de ces régionales avant de nous perdre dans les couloirs amiantés de la mairie de Montpellier. Puis nous reviendrons sur cette uchronie qui n'en est pas tout à fait une, la recomposition du paf, je veux dire du paysage politique français. Mais on ne se quittera pas sans avoir fait de la politique fiction et évoquer ce que pourraient être les présidentielles de 2012. Mais avant qu'on passe au débat, un petit bruit de rue des étudiants, puisque j'avais chargé les étudiants qui font aussi stage à Divergence, de faire un petit micro-trottoir. Et qu'est-ce qui se passerait si Georges Frêche faisait un coup d'État contre Hélène Mandrou? Qu'est-ce que vous en pensez s'il y avait de nouvelles élections? Et donc, voilà ce qu'ils en ont retiré. Vous verrez, pas grand-chose, mais c'est tout à fait intéressant.
Pas facile d'être journaliste. Le micro-trottoir est un peu la tâche ingrate que les journalistes plus expérimentés laissent aux stagiaires ou aux petits nouveaux de la rédaction. Une sorte de bizutage à l'entrée du petit monde des journalistes. Il faut être rapide, simple et concis pour recueillir la parole de l'homme de la rue, le passant, les électeurs. Déranger les Montpellierains le jour de leur repos dominical n'est pas une bonne idée. En plus, passage à la météo oblige, une heure de sommeil en moins et les passants, grognons, rechignent à répondre à peu petits jeunes. Certains ne s'arrêtent même pas, obligeant les journalistes à leur courir après. D'autres veulent à peine répondre, grognant un vague non avant de s'en aller.
Ou alors il s'agit d'une certaine méfiance vis-à-vis des médias. Capter les bruits de la rue est tout un art. Sortir le micro ou la caméra, être enregistré, c'est intimidant. Et puis, après 2 semaines d'élection, où l'abstention battait des records, on peut penser qu'il s'agit d'un trop-plein de politique. Le sujet abordé, celui de la position délicate d'Hélène Mandrou au conseil municipal, ne fait pas recette auprès du Kidam.
Bon, allez, si ça se trouve, Jacques Chancel, le présentateur de Radioscopie dans les années 70, en est passé par là, lui aussi.
Bon, voilà, un petit point de vue, enfin bref... Et pour vous donner un petit peu le détail de l'opération, ils ont quand même contacté une cinquantaine de personnes sur Montpellier, donc dans la rue, quoi, des quidam. Mais la réponse, en gros, était « mais vous m'emmerdez ». Enfin, et c'est de la politique politicienne, déjà trop de politique, 2 tours, ça suffit, on en a marre, on veut passer à autre chose. Donc, on va passer à notre premier débat. On va revenir sur l'histoire des régionales. On va la revisiter avec Manu Reynaud, donc secrétaire régional des Verts. Et si vous voulez bien, on va d'abord commencer par un petit retour sur l'abstention et la renaissance du Front National. Bon, Cohn-Bendit, en 68, qui est quand même le leader d'Europe Écologie, avait quand même dit « élection piège à con ». Que de chemin parcouru quand même depuis par Cohn-Bendit, puisque maintenant, j'allais dire, on ne le voit plus que lorsqu'il y a des élections. Et en dehors de ça, je parlais, il doit être du côté de Francfort, de Bruxelles ou de Strasbourg, mais on en entend guère parler. Alors, j'aimerais bien avoir votre analyse au niveau de l'abstention. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire-là? Parce que quand même, grosso modo, au niveau national, ça a été 50%. La campagne a été extrêmement forte en Languedoc-Roussillon. Il y a eu à peine moins d'abstention ici qu'ailleurs, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que les gens soient plus mobilisés. Alors, vous en pensez quoi?
Bah, finalement, on pourrait même pas s'étonner qu'il y ait de l'abstention, parce que franchement, est-ce que ces élections régionales, elles ont intéressé des gens? elles ont intéressé personne. Alors certes, en Languedoc-Roussillon, on avait quand même une spécificité un peu conséquente due à la personnalité du président sortant, mais sorti de là à l'échelle nationale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent principalement à ce qui se passe à l'échelle nationale, ou qui ne s'y intéressent pas. C'est compliqué les structures administratives françaises. Est-ce que vous connaissez le mode de scrutin des élections régionales ?
Ah bah les gens sont censés...
Ah non, je vous pose la question à vous.
Ah bah en ce qui concerne, oui. Oui, oui.
Ah, je pense que vous ne le connaissez pas. Je pense que vous ne savez même pas comment... Je présage pas. Comment on répartit les sièges, c'est-à-dire les élus, au second tour des élections régionales.
Si, le proportionnel est la plus forte moyenne.
Ah, c'est... Oui, mais il y a des sections départementales.
Oui,
et ceux de façon départementale. Par résultat départemental. Vous savez combien il faut de tableurs Excel pour arriver à calculer ça ?
Ah non, ça je ne sais pas.
Mais il en faut plusieurs. Alors, si vous pensez qu'on peut intéresser des gens à des élections où il faut des tableurs Excel pour calculer où vont les élus, bah, moi, je crois que déjà, on est mal barré. En plus,
c'est un faux problème, ça, excusez-moi. Hein. Parce que c'est pas parce qu'effectivement, on ne comprend pas le fonctionnement d'une élection qu'on ne se prononce pas. C'est que si on ne se prononce pas, c'est qu'il y a certainement, à mes yeux, des raisons qui sont un petit peu plus fondamentales que le principe électoral. Hein.
Bah, y a une dépréciation entre ce qu'on veut réellement, ce pour quoi on vote réellement, c'est-à-dire des élections régionales, et puis finalement ce pour quoi on fait campagne. D'ailleurs, on le voit chez certains partis, et notamment par rapport à l'UMP, c'est que parfois on parle projet, mais on est sur des lignes nationales, on n'est pas sur des lignes locales. Alors, il y a quand même un truc qui est totalement déconnant, c'est-à-dire que d'un côté, il faut parler de la formation professionnelle, qui, vous l'avez remarqué, intéresse beaucoup de gens, parce que c'est l'exercice obligé, mais d'un autre côté, les gens votent sur autre chose. Donc il y a un décalage complet. Et il faudrait peut-être se mettre à la place des électeurs qui, effectivement, ne veulent ni de la politique politicienne, comme votre micro-trottoir le disait, et ça dégoûte. C'est clair et net, et ça dégoûte nationalement, ça dégoûte localement, mais surtout que les électeurs, ils comprennent ce qui se passe. Et objectivement, avec notre structure administrative, je joue pas sur les élections régionales, mais on pourrait faire la même chose sur les conseillers généraux. On pourrait même faire passer ça sur la mairie de Montpellier, j'allais dire, sur les municipales. C'est trop compliqué. Voilà, c'est trop compliqué, donc déjà ça...
Mais à Montpellier, on va y revenir. Oui. Bien, bon, en l'occurrence, la semaine dernière, nous avions Marc Dufour dans le studio, et qui nous a fait une analyse, j'allais dire, tout à fait hors norme. Il tenait un bureau de vote sur Montpellier.
Comme son parti.
Il avait une vingtaine de copains, lui, qui tenaient bureau de vote. Et ils ont constaté, mais bureau de vote par bureau de vote, vrai pour 20 bureaux de vote sur Montpellier, ça ne fait pas forcément une loi sur la chose, mais que les abstentionnistes du premier tour n'étaient pas du tout les mêmes que les abstentionnistes du deuxième tour. Que le différentiel était énorme, à savoir de l'ordre d'à peu près de 50% au niveau des abstentionnistes. C'est-à-dire que concrètement, il y a eu 25% de gens qui se sont abstenus pendant les deux tours et que les autres 25% d'abstentionnistes se sont abstenus soit au premier, soit au deuxième tour. Autrement dit, il y avait de l'abstention politique. S'ils votaient au premier tour mais pas au deuxième, ou s'ils votaient pas au premier mais au deuxième. Enfin, c'était... Et à ce moment-là, il n'y a plus que 25% de pêcheurs à la ligne. Et à ce moment-là, c'est une élection... Ou au contraire, les gens se sont hyper motivés. Donc c'est exactement le contraire de ce qu'on dit aujourd'hui.
Non, parce qu'il y avait l'abstention comme attitude politique qui a été prônée par certains, hein, réellement. Alors bon, moi, les chiffres de Marc Dufour sont sûrement intéressants, mais enfin, qu'il arrive à ce niveau-là à pouvoir tirer des chiffres de ce type, c'est sûr qu'il y a eu des abstentions.
Il a tiré sur 20 bureaux de vote sur Montpellier.
Oui, mais attendez, c'est parce qu'il a vu repérer des gens. Parce que, dernière nouvelle, le vote est secret, et selon les gens qui se déplacent, on sait où on va.
Sur un petit bureau de vote, on les repère.
On repère.
Quand même, c'est le deuxième tour. Il y a des formations politiques qui ont appelé quelque part, soit à l'abstention, soit au bulletin blanc. Donc effectivement, bon, tout c'est, dans la mesure où le même taux de participation a été le même au premier ou au second, moi je ne suis pas au modem, je dirais contre la thèse de Dufour, hein, ne vous trompez pas.
Pas encore.
Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a eu une mobilisation
à droite.
Dans le même temps, il y a eu une démobilisation, je dirais, à gauche. Ce qui fait qu'en fin de compte...
C'est même pas une démobilisation, c'est une démobilisation active, volontaire.
Et à titre de ligne politique. Comme elle pouvait être au premier tour aussi, à partir de la droite, enfin, je veux dire. Donc à partir de ce moment-là, lorsqu'on dit il y a 52-53% des gens qui sont allés aux lunes, aux urnes, si on fait la somme sur les deux tours, c'est peut-être 60 ou 65%.
Oui, mais vous pouvez essayer de gratter 10 ou 15%, c'est bien, et de montrer quelque chose, mais c'est quand même pas très acceptable en soi que ça soit 50 ou 60.
Parce que ne se posait pas les mêmes questions en 2004, alors qu'il y avait eu une participation qui était de l'ordre de 62-63%. Voilà. Et en 2004, tout le tapage sur les abstentions...
Il n'y a pas forcément un désintérêt
donc, moi, des citoyens. Donc moi, je pense pas qu'il y a un désintérêt des citoyens. Maintenant, il y a peut-être effectivement une offre politique qui n'est pas...
Qui ne correspond pas à la demande des gens.
Qui ne correspond pas, ou qui, en fin de compte, bon...
Moi, je veux dire, en plus du désintérêt, il y a peut-être, on va peut-être en parler tout à l'heure, un dégoût aussi de la politique politicienne, et vous oubliez...
De la politique politicienne, mais ça n'empêche pas les gens de s'intéresser à...
De s'intéresser, vous oubliez aussi les 6,5% de mémoire hein, à l'échelle régionale, après, c'est ça. Il y a des disparités locales différentes de bulletins blancs, ou nuls.
Ah oui, oui, effectivement. Effectivement. Non, oui, mais, non, oui, mais ça, c'est un vote. C'est pas un désintérêt.
C'est pas un désintérêt.
C'est ce qu'on propose, me convient pas. Bon, alors après, je vote blanc, je vote nul, je m'abstiens. Mais c'est pas, je m'en fous, je vais pêcher à la ligne, ça m'intéresse pas. Quoi.
Non, mais c'est quoi la démonstration en fait? C'est juste pour dire qu'au final, c'était pas exactement non. 55, mais ça pourrait être 58.
Non, moi, ce que je pense, c'est que la.
Sur les appréciations de Marc Dufour.
Non, je pense que la. Non.
Promodem.
Non, pas du tout. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que la dramatisation.
Si Marc Dufour a trouvé des électeurs, il faut le dire.
Je dis que la dramatisation qui est faite sur le désintérêt du français à la politique avec un grand P. Je trouve que c'est un petit peu réducteur. Voilà. Ben,
moi, je pense que, alors là, pour le coup, on tombe vraiment dans le sujet. Ce qui a été fait avec Georges Frêche, avec l'instrumentalisation du Parti Socialiste, comme dégoût de la politique, je pense qu'on peut rarement trouver mieux. Parce qu'arriver à un moment donné où il n'y a plus de signe politique, où il n'y a plus de ligne politique, incarnée que par la vulgarité, que par le non-message politique, est-ce que vous savez combien il y avait de mots dans la profession de foi de Georges Frêche? De mots, hein? Je ne parle pas de phrases. 24. Il y avait 24 mots dans, comme programme du, pour le président sortant du Conseil régional. Il est passé sur tous les plateaux télé. Il a dégoûté la France entière en insultant tous les partis politiques, toute l'histoire politique, en disant qu'autour de lui, de sa vulgarité et du reste, on pouvait construire des choses. Enfin, si vous voulez, ça fait le lit de l'extrême droite.
Georges Frêche reste le sable de non participation à l'extrême.
Ah justement, on va y venir un petit peu à l'extrême droite.
C'est ça là. Bon.
On a parlé de vote protestataire. Il fut un temps où on parlait de vote contestataire. Est-ce que vous faites la différence entre les deux, protestataire, contestataire? Le FN était censé faire partie de ce vote protestataire, comme en son temps le Parti communiste l'avait été, les Verts l'ont été aussi. Est-ce que le FN fait encore partie du vote protestataire, ou est-ce qu'aujourd'hui, pour le FN, est-ce que ce n'est pas le début d'un vrai vote d'adhésion auprès du FN? Certainement, faut de mieux, mais un vrai vote d'adhésion. Est-ce que ce que le FN a fait, ces pourcentages, est-ce que ça n'est que protester, contester, ou est-ce qu'il n'y aurait pas une adhésion? Quand on a vu Franck Jamais et son discours, je ne suis pas sûr que les gens aient voté juste pour emmerder le monde auprès du FN. Ils ont peut-être voté aussi parce qu'ils adhéraient aux idées. Si ce n'est du FN, de Franck Jamais. Vous en pensez quoi, ça?
En tout cas, il y a une mutation dans le discours du Front National, une mutation qui est très claire. Enfin, le passage à témoin entre Le Pen et sa fille, et puis ici, Jamais et sa fille, ce qui est assez étrange, qui le font en plus...
C'est une mutation de tous les partis politiques.
Non, mais c'est une mutation de personne. On a
entre Delors et Aubry. Il n'a pas été meilleur. Au niveau des Verts, c'est Duflo, c'est une femme. Au niveau du PC, c'est Marie-Georges Buffet.
Je crois que
au niveau de l'UMP, c'est Carla. Non, c'est pas Carla. Non, c'est encore Nicolas. Mais encore, on parle beaucoup de Michel Alliot-Marie. Il y a une véritable féminisation. Et effectivement, le discours n'est pas le même. Et peut-être que c'est ça qui passe mieux. Auprès de l'électorat.
On ne peut pas se féliciter juste que ce soit une femme à la tête du FN. C'est un peu limite, quand même, comme explication. Mais non, mais
j'ai bien le droit pour une fois d'être féministe.
Non, mais c'est vrai que.
mais toi, tu
rigoles. On va assez reprocher.
Tu rigoles. Mais moi, je prends la phrase de Ferrat, hein, ou la chanson de Ferrat. Hein. Faut-il pleurer, faut-il en rire, hein. On regarde une réalité, bon, effectivement. Alors, moi, ce que je crois, c'est que.
De quoi faut-il pleurer, faut-il en rire? Que les femmes prennent le
pouvoir
en politique.
Non.
Pardon. Non, mais j'avais cru comprendre.
Que justement, ce vote répété du Front National devienne une habitude.
Ah, ça, c'est une habitude depuis 84.
Justement.
Il y a eu l'exception 2007.
Et c'est ce qui fait la différence entre le vote protestataire et le vote contestataire. C'est la répétition.
Et tu crois qu'aujourd'hui, c'est encore contestataire ou protestataire?
Le FN, il change. Le changement de leader, il est conséquent. Parce que déjà, dans l'esprit des gens, le jour où Le Pen devait décéder, le Front National devait disparaître. C'était
tout le monde avait dit ça.
Et consubstantiel à sa nature.
On l'avait dit du gaullisme, d'ailleurs. Le jour 5e République, le jour où De Gaulle disparaîtrait, la 5e République disparaîtrait avec. Elle survit encore
pas pour longtemps,
plus de 50 ans après.
Et on s'aperçoit que finalement, c'est pas vrai. Et que finalement, eh ben, elle arrive. Alors, bah, après, il y a France Jamais localement, régionalement, mais c'est nationalement quand même que les dynamiques elles sont mises en place. Et les discours sont en train de changer. Bon, il faut quand même avouer que si le gouvernement a beaucoup aidé au résultat du Front National. Hein. Donc, ça, c'est une certitude. Grâce à Besson, on a quand même beaucoup pu faire pour le Front National. Que le gouvernement est très responsable.
Ah oui, bah, là, c'est le gouvernement, il faut nuancer, parce que Besson est quand même à l'origine quelqu'un de gauche, et c'est quand même la gauche, les Mitterrand, qui ont créé le Front National. Enfin, qui l'ont créé.
Ah, c'est l'ouverture. Hein.
Là, c'est. C'est quand même une réussite de la part de Sarko d'avoir récupéré Besson si c'est pour faire remonter le FN.
Disons qu'ils s'y sont mis à plusieurs. Quoi.
Ils s'y sont mis à plusieurs. Non.
Ah, donc si tu parles de Fouine, tu vas te faire virer par le directeur de Divergence.
Je dis Fouine comme je. Non, bon. Même le CSA, il n'osera pas. Quoi. J'ai dit beaucoup pire que ça. Quoi. Justement, mais quelles sont les limites de la démocratie? Parce que. À un moment, ça finit par poser problème. Les partis ne devraient-ils pas s'entendre entre eux avant de chercher à se compter? On arrive à un véritable bazar, parce qu'il est clair que les électeurs, il me semble clair que les électeurs sont motivés par la politique en France, mais qu'ils sont complètement démotivés par l'offre politique qui est proposée. Et donc, vu que les partis politiques sont quand même la cheville ouvrière de la démocratie libérale, machin bidule, occidentale, indirecte, est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait pas remettre en cause complètement, quoi? Il y a un problème. C'est les partis qui sont un problème, non?
Je sais pas si les partis, c'est peut-être leur forme d'organisation, c'est peut-être la façon dont on appréhende le discours politique. Nous, on est en train d'inventer un truc génial avec la coopérative politique. Donc, on est en train de tout réinventer. Donc.
C'est pas les Verts qui sont en train d'inventer ça.
C'est Europe Écologie, mais les Verts Europe
c'est
Écologie.
C'est pas Europe Écologie. Non, c'est pas Europe Écologie. C'est Daniel Cohn-Bendit.
C'est Daniel Cohn-Bendit avec Europe Écologie, avec tous ces gens-là s'aiment, s'apprécient. Ils adorent faire des choses ensemble. Ils vont faire
Cécile Duflo, visiblement, c'est dans la série Je t'aime moi non plus. Quoi.
Cécile Duflo.
Elle a déclaré que la coopérative politique, on va en parler un peu tout à l'heure, on va développer. Ça avait pas l'air de lui plaire plus que ça, la coopérative politique. Elle a un côté presque gaulliste. Elle veut bien faire la coopérative politique à condition qu'elle soit verte. Ça fait penser à De Gaulle qui voulait bien l'Europe à condition que ce soit la France. Quoi. Éric Zemmour, si tu m'entends, on te fait un gros bisou. C'est à peu près la thèse de Zemmour. Hein.
Non, mais Daniel Cohn-Bendit, il est génial. Il fait des propositions et justement, on va en débattre. On a créé des cadres pour en débattre. Il y avait un conseil national qui, des Verts, le parti politique qui existe encore et qui a servi tout au long la cause d'Europe Écologie. Parce que l'Europe Écologie et les Verts, pour l'ensemble des électeurs, c'est la même chose. On ne fait plus de différence. C'est des gens qui ont envie de faire des choses ensemble.
Pas chez nous.
Essayez de le vérifier. La prochaine fois, vous ne présentez que les Verts. J'ai peur que vous retombiez à 3%, non?
Non, mais oh, 3%.
Allez, 4
On est en train de réinventer l'écologie politique. Et c'est pas la structure qui compte fondamentalement. Il faut qu'on en trouve une, parce qu'il faut que ça soit visible, il faut qu'on fasse des choses ensemble, il faut qu'on le fasse dans le respect de ce que nous, on porte comme valeur. Mais il n'empêche qu'on est en train de réinventer un truc.
Il faut aussi qu'il y ait un programme qui satisfasse tous les coopérateurs.
Mmh. Ah ben bah oui, mais c'est le principe de la coopérative.
Et je dirais qu'aujourd'hui, on est dans un monde où l'offre politique est très élastique.
Comme la mode.
Justement, on l'a vu pour les régionales. Revenons un petit peu sur le premier tour et sur ce que moi j'appelle depuis le premier tour la bande des trois. La bande des trois, à savoir Europe Écologie.
Vous l'aimez pas, René Revol? Vous l'aimez pas, René Revol?
Si, on l'adore, il vient régulièrement. Mais là, moi, j'aime pas quand on nous plante surtout.
Moi, j'aime beaucoup ses idées.
Savoir la politesse de nous dire je peux pas venir.
J'ai de la sympathie pour ses idées.
Mais... Jean-Louis nous a dit. Voilà, moi j'ai conseil municipal et tout. Bah, voilà, très bien, il n'y a aucun souci. Patrick Vignal était invité aussi ce soir. Il a conseil municipal. Il m'a téléphoné 45 fois. Bon, il n'y a pas de souci. Il a même essayé de trouver 12 représentants pour le remplacer. Ils ont eu du mal, là. Bon, ça, c'est pas de sa faute. Je n'en veux pas. René Revol, on lui a laissé 40 messages. Il ne nous a pas appelé pour nous dire oui, non ou merde. Alors, vu qu'il ne nous a pas dit ni oui, ni non ou merde, on va choisir dans les trois. Entre le oui, le non et le merde. On va passer à autre chose. Et au niveau de la bande des trois, c'est-à-dire Europe Écologie, le Front de Gauche, et puis le Parti Socialiste, enfin représenté par Hélène Mandroux.
C'est pas un gros mot, le Parti Socialiste, faites attention.
Oui, le résultat, c'est que lorsque vous pesiez, et on l'a vu d'ailleurs, un beau 25%, et ben ça a fait 3 fois 9. Pour arrondir. Autrement dit, il n'y en a pas un qui a fait 10. Autrement dit, vous vous êtes complètement planté. Alors, la faute à qui? Est-ce que c'est la faute à Revol, au Front de Gauche? Est-ce que c'est la faute au Vert et à Europe Écologie, à Jean-Louis Gomégas? Ou est-ce que c'est la faute à Hélène Mandroux et au PS. Il faut bien que ce soit la faute de quelqu'un quand même à un moment. Parce que quand on pèse près d'un tiers de l'électorat et qu'on n'arrive pas à représenter 10% quelque part, et donc on n'est pas au deuxième tour, il y a quand même un problème. Alors la faute, elle est à qui selon vous ?
Je crois que le coupable, il n'est pas, pas recherché parmi les trois. Il est ailleurs. Le coupable, s'il devait vraiment y en avoir un, celui qui a le plus joué dans cette élection, c'est le Parti Socialiste au niveau national qui a joué avec le feu.
Et donc c'est Aubry, alors ?
D'une certaine façon, c'est vrai que la candidature de dernier moment, conditionnée par le Parti Socialiste, a fait tout foirer. Il est clair que s'il n'y avait pas eu cette candidature, dans tous les cas, ou René Revol...
Allons un peu plus loin.
Comme M. Revol n'est pas là, que j'ai de la sympathie pour M. Revol...
Enfin, oui, mais les absents ont toujours tort.
Non, non, mais c'est pour ça que je vais parler à sa place. Et je vais dire quand même quelque part qu'il pourrait dire, il pourrait dire par ma bouche qu'effectivement, au départ, la position du Front de Gauche était claire. Dans la mesure où ils ont monté une liste, ils ont fait un accord avec Europe Écologie pour un accord au deuxième tour. Donc à partir de ce moment-là, bon, les choses étaient claires et nettes.
Et à deux, il y en avait un des deux qui faisait 10%. Il est vraisemblable
qu'effectivement, avec simplement ces deux partenaires, la barre des 10% aurait été atteinte soit par l'un, soit par l'autre. Maintenant, après, effectivement, il y a eu un troisième larron qui est venu au milieu, je ne sais pas pourquoi.
Bah, c'est une larronne, là, en l'occurrence.
Oui, les larronnes. Oui, voilà.
Bon, mais... Au bout du compte, quand Hélène Mandrou a discuté avec Jean-Louis Roumégas, je suppose que vous en étiez au niveau de la discussion. Alors, si Jean-Louis Roumégas avait dit « Ok, je laisse la tête de liste régionale à Hélène Mandrou, je me mets en numéro 2, etc. » Là, ça le faisait. Donc c'est Jean-Louis qui a, comme pour les municipales en 2008, il en a trop voulu.
On va revenir sur les municipales en 2008, parce que je suis bien placé pour avoir vécu les deux, donc il n'y a aucun souci. Je crois qu'il n'en a pas voulu trop ou pas assez. D'ailleurs, les résultats in fine du premier tour des régionales montrent effectivement qui pouvait prétendre au leadership. Ça, c'est une réalité concrète qui, pour le coup, est totale. Et puis, pour revenir sur les municipales de 2008, je crois que les vraies raisons de l'échec de l'accord, ils sont clairs, ils sont dans la personne de Georges Fraîche. Et je pense qu'Hélène Mandrou,
il n'est pas trompé, lui. Au contraire, c'est lui qui vous a permis d'exister.
Pardon ?
Il n'était pas autour de la table, là, au régional. Mais au régional,
on est dans un autre problème. On est dans un... Franchement, très franchement, moi, c'est la pire élection que j'ai jamais vécue. Je crois que c'est un cas d'école, un cas... mais vraiment un vrai cas d'école, quoi. C'est un truc qui n'existe pas, qui n'arrive jamais. Quand vous vous levez le matin, où la stratégie d'un des partenaires change du jour au lendemain, quand la scène médiatique se déchaîne autour d'un personnage sans qu'il n'y ait plus aucun projet. Moi, je peux vous assurer que j'ai jamais.
En tant que vert, vous êtes militant vert depuis quand ?
Depuis au moins une dizaine d'années.
Bon, vous les connaissez pas, les socialos ?
Si, mais là,
c'est quand même pas nouveau.
C'est habituel. Ah, vous êtes habitué à ce qu'on change de candidat en
cours
de
parti,
à ce qu'on exclue la moitié d'une liste.
Non, à ce qu'il soit impérialiste et à faire des dictats. Notre ami Le Renard, qui fut en son temps communiste...
Qui tire vers l'orange.
Le sait le premier, Jean-François, que le PS est impérialiste et puis qui, vis-à-vis du PC en son temps...
L'émission, elle a fait combien ? Une heure et demie ? ça serait l'heure hein, pour parler de tout ça.
Pour parler de l'impérialisme du PS. Bon, eh ben on va passer à la chose suivante. Revenons sur les municipales de 2008. Alors, pourquoi cet échec avec Mandrou ? Parce que Mandrou, vous allez nous le dire de façon précise, je ne me rappelle plus très exactement, elle proposait 7 sièges... Quand Jean-Louis Roumégas en voulait 8 ou 6 à la place de 7, enfin, ou 5 à la place de 6.
Je crois que vous avez eu la version du service communication de l'hôtel de région. Hein. Parce que la réalité, c'est pas ça du tout. Vous savez, quand vous faire un accord politique, vous discutez pas sur 6, 7, 8 ou 9. En 2001, quand Georges Fraîche a fait un accord avec les Verts à l'époque, on lui a imposé parce qu'il risquait de perdre, il n'a pas discuté les sièges. Hein. Et il a même pas discuté le programme d'ailleurs. Et on a fait des choses. Et en 2008.
L'usine de méthanisation, Mazerolle.
L'usine de méthanisation, oui.
Depuis, les habitants ne peuvent plus vivre autour.
Mais l'usine de méthanisation, il ne fallait pas la laisser faire par les socialistes. Ça, je suis d'accord avec vous.
Ah non, elle a été faite par les Verts.
Ah non. L'idée a été conçue par les Verts. Mais après, les socialistes s'en sont occupés. Vous voyez le résultat.
Ah oui, non, mais là, c'est que les Verts, ils auraient dû faire un petit voyage en Suisse, parce qu'au niveau méthanisation, on peut en parler deux secondes.
Sur la méthanisation, si vous voulez en parler.
Les Suisses qui ont inventé, en quelque part, le process de méthanisation, c'est on fait des toutes petites usines dans chacun des villages. On ne fait pas une grosse usine pour une aglo. Non,
c'est une boutade, quand je vous dis sur les socialistes, quand même, soyons clairs, c'est pas une boutade. C'est le côté opérationnel qui a manqué. Et effectivement, réellement, c'est un procédé qui mérite d'exister. Parce que c'est vraiment un procédé écolo. Le souci, c'est qu'effectivement, l'agglomération, et à l'époque dirigée par Georges Frêche, ne s'est pas donné les moyens pour faire en sorte qu'elle fonctionne. Bon, c'est clair et net. Mais je vous donne un exemple. Enfin, je sais pas si vous avez
on ne fait pas fonctionner une énorme usine de méthanisation. Mais on peut faire fonctionner une usine en plein centre-ville. Parce que le Mas-Drevon, c'est centre-ville. Maintenant,
c'est quand même pas au milieu du Mas-Drevon, c'est plutôt dans la zone économique.
Quasiment.
C'est dans une zone économique. Enfin, je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour.
Oui.
Réellement.
Ah bah, bientôt, ça deviendra une zone écologique avec pour habitants essentiels des mouches.
Mais cela dit.
Et des masques.
Non, mais il y a un réel problème en matière d'exploitation de cette usine, ça c'est clair et net. Il y a un réel problème qui n'a pas été traité. Ils ont fait des économies sur tout, ils n'ont pas voulu couvrir les hangars.
Ils n'ont pas traité le problème d'une usine de traitement des déchets, il y a un problème là.
Non, mais c'est sérieux les déchets, il faut faire des trucs avec.
Ah oui, non, ça c'est clair. Ah, c'est clair. Allons un peu plus loin, et récemment, il y a quelques semaines, je ne comprends pas là, comment les Verts, à la mairie, ils ont refusé de voter le budget tout en s'alliant avec Mandrou pour le deuxième tour des régionales. Alors, ça a inséré. Mais alors, au niveau ville, ce que tu fais, c'est du n'importe quoi. Et alors, au niveau région, je suis pote avec toi.
Je pense que tout ce que tu dis, c'est plus compliqué que le mode de scrutin des régionales.
Non, mais moi, c'est mon côté pédagogue. Moi,
mais l'électeur, il a autant de mal à comprendre tout ça.
Je pédagogise.
L'électeur,
c'est comme un élève. C'est quand tu pédagogises, il comprend bien. Quoi.
C'est vrai.
Il comprend bien. Alors, là, quand même, il y a quand même un problème, non ?
Il y a un énorme problème de compréhension, d'audibilité.
D'autant que là, on n'a pas l'info encore, mais enfin, il ne serait pas tout à fait étonnant que Jean-Louis Roumégas trouve une délégation à la mairie d'ici 20h, 20h30, non ?
Ah non, là, je peux vous assurer que ce n'est ni l'objet, ni l'intérêt de la réunion, et je crois qu'on a dépassé ça.
On peut le dire, ça ? Allez, on l'affirme, on est en direct. Hein.
Je peux vous l'affirmer tout de suite.
Il n'y aura pas de délégation d'adjoints pour les Verts.
Bah d'abord parce qu'on le demande. D'abord parce qu'on le demande pas, et ensuite les délégations c'est le pouvoir propre du maire, c'est pas en conseil municipal que ça se fait. En l'occurrence, c'est pas une demande qu'on fait. Nous on se prend plus du tout dans ce processus.
Ah oui, mais si l'adjointe au tourisme qui est élue à la région est virée,
comme par hasard.
Du coup, il y a une place.
Là, vous parliez de pédagogie, c'est un peu compliqué parce que. Mais vraiment compliqué.
Parce que vous n'êtes pas pédagogue.
Mais je vais essayer, vous allez m'aider. Les adjoints, ils sont élus par le conseil municipal. Et le conseil municipal ne peut pas les démettre. C'est assez étrange, mais seul le maire peut démissionner et ça enlève les postes d'adjoint. Sinon, tant que la personne n'a pas démissionné, on ne peut pas l'enlever. La seule chose que peut faire le maire, c'est lui enlever la délégation, c'est-à-dire son côté opérationnel. Personne reste adjointe, mais n'a plus sa délégation. Alors là, c'est une question de délégation, mais pour ce qui nous concerne, nous, on n'est pas rentré dans ces perspectives et on n'a pas du tout l'intention d'entrer dans ces perspectives de cuisine. Parce que si vous trouvez une majorité à la ville de Montpellier à l'heure actuelle, on le saura peut-être ce soir. Hein. Là, on est en train d'en parler, on verra si elle existe tout à l'heure. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas de demande en termes de poste. C'est plus l'optique. Par contre, on a sûrement des points de convergence.
Je parlais pas de demande, je parlais d'offre.
Ah, bah, attendez, on vous force pas à prendre.
C'est l'offre en demande, tout dépend du prix.
Ah mais là il y a pas de prix, je crois que.
Il y a toujours un équilibre.
Faut pas prendre les Montpelliérains pour ce qu'ils sont pas, ils sont plus intéressés par.
Là je parlais pas des Montpelliérains, je parlais des Verts là.
Ah mais les Verts non plus.
Ouais, d'accord. Même s'ils sont Montpelliérains.
Dans les séries américaines à la télévision quand même, il faut l'effort avant de montrer un épisode de faire le résumé de l'épisode précédent. Le problème justement dans la politique, c'est que on passe d'un épisode à l'autre. Hein.
Les auditeurs de Divergence, ils suivent.
Ah, nous, ils suivent,
il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, je voudrais qu'on parle de
la pédagogisation.
Deux mots, parce que quand même, vous connaissez quand même l'affaire de l'intérieur. Deux mots sur le cabinet de combat de Hélène Mandrou. Christian Assaf, Alban Zanchiello, Sylvain. Sylvain Jambon, il n'y est pas. Enfin, bref, seul cabinet de combat.
Une fois de plus, vous écoutez le service de communication de la région.
Non.
Ce cabinet de combat, moi, je l'ai entendu que dans les mots de Georges Frêche.
Jean-Louis Roumégas, mais ça, il a dû vous le dire. Il a apprécié les médecins.
Ah, je ne suis pas.
Non.
Je suis pas.
Avec quand ils ont bouffé chez Assaf l'autre jour. Avec Hélène et puis Revol. Ouais.
Et donc, il a apprécié.
Ah, je sais pas. C'est une question.
Mais vous savez, les gens se parlent. Pourquoi vous croyez? Mais nous, on se parle tout le temps. On s'appelle tout le temps.
Oui, du coup, non, mais du coup,
je trouve qu'en plus, Christian,
dans cette réunion de cabinet,
nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui est ressorti de ce repas.
Oui, qu'est-ce qui est sorti de ce repas?
Ah, mais il faut leur donner un background.
Il faut poser la question à Jean-Louis Romégas.
Ah, mais on voulait lui poser.
Oui, mais il n'a pas pu. Tant qu'au conseil municipal, on verra bien s'il en est ressorti quelque chose de ce repas. Mais
il vous a rien dit?
On en a parlé.
Moi j'ai rien contre la convivialité de personne. Hein.
Vous savez, les gens ils s'apprécient.
Non, au contraire. C'est très bien que les gens se rencontrent.
Ce qui intéresse les gens, c'est ce qu'on fait après.
C'est ce qui va ressortir de tout ça qui nous intéresse.
Écoutez, à l'heure actuelle, nous y travaillons.
À quoi? À digérer le repas ou...
Non, pour ce qui concerne le repas, il n'y a pas de souci. Non, on travaille. La situation...
Arrête, ça s'est passé comment? C'était sympa. Navarro y était?
À mon avis...
En Francis, hein?
Ah là là, oui.
Ça rappelle un repas avec Hervé Séguéla. Enfin, Jacques Séguéla, pardon.
Ah oui.
C'est un reportage.
Là, visiblement, ça devait plus tenir du divorce que du mariage, là.
On va faire
quand même une petite pause musicale. Je vous propose un petit morceau de Trio et Benabar. Et je crois que là, on est vraiment complètement dans le sujet et dans l'esprit. Parce que le morceau s'appelle Con par raison.
Mes actions, d'ailleurs des actions, j'en ai par millions. Je suis un de ceux qui affament la nation. Je suis pourri par envie de montrer au monde qui je suis. Imaginez une sorte de Bernard Tapie sans aucune année de prison devant lui. J'exploite à 100% le travail des bouffons. Chez moi c'est inné et ça vient de l'éducation. Mon père le faisait, il m'a légué sa passion. Je suis pourri par envie. Je sais que mon petit jeu a des effets sur mon vie. Toute ma famille bosse à World Company. Mes enfants s'entraînent déjà sur la Monopoly. Je suis con par raison. Je vis une vieille cité construite en vieux béton. J'ai pas d'envie, pas d'argent, je rêve de pognon. J'envie le con du couplet d'avant de cette putain de chanson. Moi je suis pourri par envie. Le jour où je touche le pactole, j'oublierai mes amis. Je rêve d'avoir du bol de gamin au juste prix. Mais jamais je porte une banderole, jamais je pousse un cri. Manifestation, moi je l'ai maudite par envie.
Retour dans les studios de Divergence Provoscopie avec Manu Reynaud, le secrétaire régional des Verts, qui représente Jean-Louis Roumégas, qui est en plein conseil municipal. Ah, déjà, bon, on a une info, Georges Frêche n'est pas là. Enfin, n'est pas là, je ne parle pas du studio. Il n'est pas au conseil municipal, d'après la petite info. Bon, du coup, ça change un petit peu. Peu la donne, en ce sens que, a priori, si Georges Frêche n'est pas venu, c'est que on temporise.
C'est la détente froide.
C'est la détente froide. Bon. Mais on va passer à notre deuxième débat, la recomposition du paysage politique français. Et voilà, vu qu'on a un verre, moi j'ai une série de questions. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas rejoint en son temps François Bayrou et son MoDem qui voulait recomposer le paysage politique? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas rejoint le front de gauche de Mélenchon et de ses amis qui voulaient recomposer le paysage politique? Et pourquoi est-ce que maintenant vous voulez faire du Bayrou et du Mélenchon avoir la sauce Cohn-Bendit en faisant une coopérative politique? Est-ce que vous n'êtes pas en fait tous plus gaullistes les uns que les autres? C'est-à-dire que vous voulez bien partager à condition d'en être le chef?
Nous, je crois qu'on ne peut pas nous taxer de gaullisme. On pourrait nous taxer de beaucoup de choses, mais de gaullisme...
Alors, gaullien, mais cette façon de procéder, quand De Gaulle était contre l'Europe, mais il pouvait être pour, à condition que ce soit la France qui soit la patronne de l'Europe. Il était contre les partis, sauf si son parti était majoritaire. Vous êtes un petit peu dans une même ligue.
On est dans la
mais Bayrou autant, Mélenchon autant. Hein.
Non, mais Bayrou, non, mais...
Il prend la défense, ça y est, regarde.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir.
Il prend la défense du MoDem.
Il vire orange.
Non, le MoDem, il n'était pas dans les élections régionales. Il était spectateur ou partisan. Moi, je pense qu'il était plus partisan que spectateur. Mais c'est pas
pour grave. Un membre éminent d'un parti maintenant, politique, d'être partisan, c'est
maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vont faire les trois formations qui se sont opposées à Georges Frêche pendant ces régionales, à savoir Europe Écologie, le Front de Gauche, et la liste du PS.
Qu'est-ce qui va leur rester, quoi?
De qui a fait pchit?
Ben les trois.
C'est pas fait pchit, ils ont fait 25%.
Ah oui, mais non. Non, ils n'ont pas fait 25%. Ils ont fait 3x9.
Non, mais ça, c'est parce qu'il y a une loi qui est à la con. Bon. Ah. Il faut laisser ça de côté. Ils ont fait 26%, ils ont été maladroits. Voilà, c'était une gauche-gauche.
Le centriste se rebelle.
C'était une gauche-gauche.
La gauche a été gauche.
Face à une gauche à droite.
Voilà.
Voilà, ça je veux bien.
Alors, la gauche-gauche, c'est la bande des
trois.
Moi,
ce qui m'intéresse, je reviens à la
droite,
question.
C'est fraîche.
Je reviens à la question que je pose à notre ami. Bon. Que vont devenir ces trois formations là? Qu'est-ce qu'elles vont faire? À part manger chez notre ami Christian Assaf. Ce qui est sympathique au demeurant.
Il y a plusieurs questions là-dedans. Pourquoi ne pas avoir rejoint, je plaisantais, avec le coup de Bayrou? Quoique...
On a bien fait de ne pas le suivre.
Bon, certes. Mais pourquoi ne pas avoir rejoint le Front de Gauche? Parce que Mélenchon, il disait, machin, les socialistes, les communistes, les intermondialistes et tout, bon, à la limite, vous étiez cordialement invités. Bon, vous n'y êtes pas allé. Pourquoi?
Non, mais je crois qu'on incarne d'autres choses. On incarne réellement d'autres choses. Et vous parliez de posture par rapport à De Gaulle et Cohn-Bendit. Nous, c'est exactement l'inverse. On ne poursuit pas comme référent absolu l'élection présidentielle. Nous, on veut de la diversité dans la représentation. On veut des personnalités qui s'imposent, pas une seule personnalité. Je vous réponds par rapport au MoDem. On veut essayer de trouver des formes d'organisation politique qui sont réellement nouvelles. Et effectivement, vous avez.
Ça s'appelle le parlementarisme, oui. c'est pas très nouveau. Hein.
Ah, en termes d'organisation politique.
Ça date de 1214, la Grande Charte, la Magna Carta en Angleterre. Vous êtes à la limite médiévaux, là, sur ce coup-là. Là.
Ah, je ne pense pas qu'on puisse adopter cette attitude de coopérative politique comme un système médiéval. Parce qu'au contraire, non, pour le coup, là, il y a.
Les coopératives. Sont issus du compagnonnage qui date aussi de l'époque médiévale.
C'est le terme marketing, mais l'idée.
Non, à l'époque, il n'y avait pas de marketing.
Non, mais pour nous, c'est le terme.
Donc, communication marketing.
C'est le terme communicationnel.
Bah, hey, attention, là, on reprend tout. Là. Manu Reynaud, qui est quand même le secrétaire régional des Verts, vient de traiter, comme Bendit, d'objet de marketing.
Enfin, là, vous méprenez. Vous méprenez. En plus, l'admiration que nous avons tous pour Dany, c'est impossible. Quand je vous disais, c'est le
candidat de communication. Quand je dis qu'il est gaulliste.
Mais il n'est pas candidat à l'élection présidentielle.
Limite, pas encore.
Limite bonapartiste. L'admiration,
il déclare en dernier.
L'admiration qu'on a pour le chef. Non, sans non, tu déconnes là.
Il déclare en dernier.
Tu peux pas avoir d'admiration.
C'est les nouveaux écolos. On est,
vous pouvez
on
pas
est
avoir
admiratif pour Dany Cohn-Bendit.
Alors comment vous allez faire là? Lui, il est contre les organismes publics. Il y en a d'autres qui les défendent de bec et ongles. Comment vous allez faire?
Il est contre les organismes publics.
Ah oui, oui. Il considère que la Poste n'a rien à foutre. Fait que l'État n'a rien à foutre avec la Poste.
Ça, je serais presque d'accord avec lui.
Enfin, bon, mais chacun.
Le facteur un peu moins.
Le facteur un peu moins.
Par exemple, bon, et c'est quelqu'un qui est très libéral, comme vous dites. Les Verts se sont toujours positionnés à gauche.
Ils vont continuer à le faire. Hein. Et ouais, je crois alors, que Cohn-Bendit, il est très clair.
Normalement, l'écologie n'a pas de couleur.
Cohn-Bendit, alors comment il fait là?
C'est un mode.
Et cette coopérative politique
à nous attaquer de toutes parts. Hein. On ne peut pas répondre, en fait.
Ouais, vas-y, réponds.
Non, mais je ne sais plus à laquelle répondre. Donc,
Bon, je me tais. Alors, voilà.
Non, au niveau de la coopérative politique, est-ce que vous êtes dans une idée? Parce qu'en gros, il y a deux idées, une européenne et puis une, entre guillemets, américaine. Est-ce que vous voulez la jouer à l'italienne, comme Romano Prodi l'a fait, en allant de Lotta Continua, qui est l'équivalent, on va dire, de lutte ouvrière, pour aller jusqu'à la démocratie chrétienne, l'équivalent de Bérou et du Modem, en passant par les Verts, les socialos, les communistes, etc. Enfin bref, voilà. Ou est-ce que vous voulez la jouer à la Georges Frêche? Mais oublions Georges Frêche, l'homme, l'individu, et retenons uniquement l'idée de créer un parti démocrate à l'opposé du parti américain, à l'américaine, qui serait un parti aussi un peu fourre-tout de toute une gauche. C'est presque à l'italienne, mais c'est quand même différent, parce que là, il n'est pas question de l'OTA continua, ni de la Cicciolina, ni de quoi que ce soit, parce que quand même, il ne faut pas déconner au parti démocrate aux États-Unis. Vous êtes dans quelle perspective? Parce que c'est quoi cette coopérative politique?
Vous parlez de tactique politique.
Non, non, coopérative.
On ne parle pas de tactique politique. Nous, on n'est pas là pour récupérer un ensemble de formations politiques usagées qui seraient susceptibles de trouver une échéance électorale satisfaisante. On est dans un truc où on crée réellement un mouvement. Mais un mouvement, contrairement à ce qu'a fait Bérou en criant sur sa chaise le centre, le plus au centre que moi tu meurs, tout en ayant été dans des gouvernements de droite.
Et quand je dis qu'il est gaulliste.
Et tout en assumant ses alliances à gauche dans les collectivités locales, enfin, une position absolument complètement schizophrène. Et même par rapport à ça, Bérou, il n'y avait pas d'idéologie derrière. Il n'y avait pas de sens aux choses.
On a eu Marc Dufour.
Marc Dufour ne peut pas incarner l'idéologie.
Mais non, mais qui nous racontait l'idéologie.
Il est gentil,
modèle,
alors, ça pas de
sur l'humanisme, l'homme qu'il faut remettre au centre de la société.
Non, tout le monde peut
et disons d'ailleurs que lui, le modem, il remettait l'homme au centre de la société, tandis que les Verts, vous remettiez la nature au centre de la société.
Non, mais je crois qu'il remettait François Bayrou au centre de la société, c'est son seul objectif. Mais arrêtez avec les histoires de l'homme et d'humanité. Enfin, tout ça, c'est des valeurs qui peuvent être partagées par tout le monde. Vous pouvez faire signer tout ce que vous voulez. Enfin, Bérou ne représente rien. C'est des mots. Il n'y a rien. Il n'y a aucun sens politique.
Oui, non, mais alors, vous représentez... Pourquoi...
Est-ce que vous savez ce que c'est que l'écologie politique?
Pourquoi rejoindre cette coopérative politique?
Qu'est-ce que c'est d'avoir une coopérative politique?
Coopérative politique, c'est Dany qui lance des idées. Qui
non, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est une coopérative politique?
Une coopérative politique, dans l'idée de Dany, hein, c'est d'essayer d'associer tout un ensemble de gens qui vont travailler à l'organisation
de gens ou de partis?
De gens. C'est deux gens.
C'est un parti démocrate. Ouais.
C'est un parti démocrate.
C'est pas un couvert écologique, mais c'est un parti démocrate.
Parce que pour le coup, les formes d'organisation ne sont pas trouvées. À l'heure actuelle, les formes d'organisation ne sont pas arrêtées. Et c'est le côté génial du pari.
C'est une question de financement.
Ah non, oh là là. Mais justement, on va voir les autres formations politiques.
Est-ce que je peux être le candidat là, le pour moi, quand on parle de coopérative, moi, ce que je connais des coopératives, c'est que chacun amène sa marchandise. C'est-à-dire, bon, dans le cas présent, chacun amène ses idées. Bon, ça, jusque-là, je peux le comprendre. Coopérative. Et puis, en fin de compte, Cohn-Bendit, lui, il se charge, comme un oenologue mélange un petit peu le pinard de l'un et de l'autre, à partir de ce moment-là, de le vendre.
Ça mélange chaque seconde. Donc, en fin de compte, sinon, il fait un assemblage.
Cohn-Bendit, c'est quoi? C'est monsieur marketing de coopérateurs qui amènent chacun leur truc. C'est un petit peu ça? Non, mais... C'est caricatural, c'est quoi?
C'est vraiment caricatural. Parce que Cohn-Bendit, c'est pas le vendeur dans l'histoire. Cohn-Bendit, il a impulsé des trucs. Est-ce que vous vous rendez compte, parce que c'est ça le fondamental du truc, est-ce que vous vous rendez compte qu'en 3 ans, l'écologie politique a réussi à recueillir jusqu'à 17% des Français? Je veux dire qu'on est en train de vivre un bouleversement.
Non, 17% des suffrages exprimés.
Oui, mais alors, là, comme les autres, on
ce qui représentait 6,8, si ma mémoire est bonne, des citoyens, électeurs.
Et c'est une philosophie. On a
4% des Français.
C'est une philosophie, c'est une idéologie. Justement, on est en train de réinventer par rapport à ça l'idéologie. On est en train de redonner du sens aux choses. Et sérieusement, quand vous voyez le Parti Socialiste, l'histoire du Parti Socialiste, par exemple dans la gauche.
Quand Pédit, il donne du sens aux choses ou il donne du son aux choses?
Ah ben, si on peut cumuler, pour le coup, là, c'est bien. Quoi.
Ouais, parce qu'il donne plutôt du son.
Non,
quoi.
Il donne du sens aux choses, réellement. Là, on l'a vu dans les européennes et dans les régionales.
Quel sens donne-t-il?
Et il donne surtout des directions. Et les directions, pour le coup, elles sont importantes. Mais il donne des directions dans le respect des autres. Regardez, donc il y a le Conseil national des Verts. C'est pas un chef. Parce que lui, il n'a pas de prétention. D'abord, il n'a pas de statut au sein de cette organisation.
Non, surtout, il est quand même allemand d'origine.
C'est dur.
Et il sait comment on dit chef en allemand.
Ah, vous êtes dur. Hein.
Oui, Der Führer. Donc, c'est effectivement, là, c'est plus délicat pour lui. On comprend.
Non, mais il est allemand, il n'est pas candidat à l'élection présidentielle. C'est un peu nouveau dans le paysage politique français. C'est-à-dire
oui,
que,
enfin, en même temps, il a été adjoint au maire pendant fort longtemps au niveau de Francfort.
Est-ce qu'il n'est pas réaliste, tout simplement? Parce qu'être candidat au premier tour, ça n'a aucun sens. On sait qu'on n'arrivera pas au second.
Vous savez, l'écologie, c'est un grand.
Ça, c'est un petit peu ce que je reproche à beaucoup.
Il y a une chose qui est claire. Les Verts en France pèsent. Alors, on peut discuter, débattre, 3-4%, les Verts. Europe Écologie pèse volontiers 10%.
Bah, jusqu'à après, 17% en européenne.
Voilà. Ah. Et le collectif, en l'occurrence, il pourrait poser combien? Et c'est quoi le but du jeu?
Il pourrait poser beaucoup plus, et le but du jeu, justement...
Mais beaucoup plus, il faut prendre les voix acquis. Il faut bien prendre les voix quelque part.
Oui, mais il y a moyen, mais c'est pas aller prendre les voix quelque part. C'est inventer quelque chose qui rassemble pas les organisations politiques, mais les individus. Et surtout, quand je vous dis donner du sens aux choses, c'est idéologique. L'écologie est en train de devenir un centre, pas politique, ne nous trompons pas, un centre. La position et le fondement même... d'une idéologie. C'est extraordinaire. Vous aurez beau minorer les chiffres comme vous voulez, que c'est pas 17%, qu'il y en a peut-être qui sont pas allés à tel endroit en Bretagne, ou qu'il y en a plus en Champagne-Ardenne.
Non, mais 17%, il y avait 66% d'abstention.
Voulez absolument minorer la chose.
Ah non. Je l'apprends concrètement. Quand il y a 17% des suffrages exprimés, et sachant qu'il y a eu 66% d'abstention, concrètement, il faut diviser à peu près par 3 pour avoir le résultat. Quoi.
Ces 17%, en l'occurrence, ils vont permettre de changer réellement les politiques publiques.
Pourquoi pas?
C'est la réalité. Je veux dire, aujourd'hui, il y a presque 300 conseillers régionaux Europe Écologie.
Mais quand on entend Cécile Duflot...
Sauf en langue de Roussillon.
Cécile Duflot, hier et avant-hier, à propos des déclarations de Daniel Cohn-Bendit là-dessus, qui, elle, est a priori opposée complètement à cette coopérative politique. Elle dit, bon, nous, c'est les Verts, etc. Et éventuellement, elle veut bien s'associer, s'allier avec d'autres mouvements. Elle n'imagine pas se rassembler... dans je ne sais quoi, enfin en l'occurrence une coopérative politique. Donc là, il y a visiblement un désaccord au sein même des Verts là-dessus, entre vous qui, et en plus bon, secrétaire régional des Verts, donc c'est pas le militant du coin, et Cécile Duflot, là, vous n'êtes pas d'accord entre vous là.
Bah si, justement. On sort d'un Conseil national des Verts qui a voté à l'unanimité un calendrier... pour mettre en place cette organisation.
Donc Cécile Duflot se fout du monde, alors.
Non, Cécile Duflot...
Elle a déclaré sur tous les médias qu'elle n'était pas d'accord.
Cécile Duflot, elle dit simplement que la forme d'organisation, on va en discuter, on va en débattre ensemble, et on va mettre un calendrier en place. Et au contraire, elle le fait à l'unanimité des Verts. À l'unanimité des Verts, avec la présence de Philippe Mérieux, avec la présence de députés européens qui étaient là et qui étaient des députés européens.
Un Mérieux peut-il vraiment être un Vert? Quand on est issu d'une famille de laboratoires pharmaceutiques, est-ce qu'on peut vraiment
être
vert?
Une grande fondation.
Philippe Mérieux, c'est une figure.
C'est une pilule dure à avaler, ça.
Ouais.
Ça vous...
Non, c'est vrai que
j'aurais pas de répartie sur le
joueur. C'est vrai qu'on est de mauvaise foi. Non, mais est-ce que tout simplement, et ce serait tout à fait légitime, est-ce que les Verts n'auraient pas peur de perdre leur âme?
Non, mais c'est compliqué quand vous êtes
fait en se fondant dans quelque chose de plus grand, quoi.
Alors, les Verts, ils n'ont pas peur de perdre leur âme, et justement, ils l'ont dit ce week-end, parce que nous, ce qui nous importe avant tout, c'est l'avenir de l'écologie politique. Alors maintenant, la forme que ça va prendre, parce que vous êtes vraiment très intéressé par les aspects organisationnels, alors on peut en parler, mais ce qui nous importe avant tout, c'est de porter des changements. Et porter des changements, mais il va falloir trouver une forme d'organisation.
Tiens, ma question est la suivante. Moi, je veux bien ça. Je l'entends. Maintenant, est-ce que c'est pas
en opposition... Ne demande pas si les gens ont une âme. Hein.
Est-ce que c'est pas en opposition... Enfin, une politique écologique, écologiste, mm-hmm. parce que les Verts, jusqu'à présent, ils étaient ancrés à gauche, et à côté de l'écologie, ou avec l'écologie, ils portaient aussi une politique sociale. Ce qui, effectivement, justifiait leur positionnement politique dans l'échiquier. Aujourd'hui, que devient, au nom de l'écologie politique, le rassemblement d'une économie, enfin, je ne sais plus, de rassemblement politique, que devient effectivement la place de l'économie sociale dans, effectivement, le discours des Verts. Parce qu'effectivement, moi, je vois qu'effectivement, aujourd'hui, dans le rassemblement d'Europe Écologie, ma foi, bon, il y a des gens, effectivement, comme les Verts qui sont... cohérent avec... mais il y a aussi des distorsions. Il y a aussi des distorsions.
Je reformulerai la question différemment, mais à peu près
enfin, la même. Je ne sais pas si
quelles sont les limites de cette recomposition du paysage politique avec la coopérative politique. Vous pourriez vous rassembler avec qui, de où, à où. J'ai cru comprendre que le MoDem... que le MoDem, non. Bon, ce qui laisserait supposer que vous n'êtes pas humaniste.
Pour être écologiste.
Bon, alors vous allez de où jusqu'à où ?
Alors, on revient juste sur la coopérative politique. La coopérative, c'est une idée de Denis. Ça sera l'objet du débat. Ce n'est pas le truc en soi qui va être décidé. On ne sait pas ce qui va être décidé. C'est justement un peu ce qui fait...
Oui, mais c'est ça le problème. Parce que si je prends un exemple...
Mais vous irez vraiment
mais vous comprenez, nous, on n'a pas François Bayrou pour décider ce qu'il faut.
Non, mais vous irez de non, où jusqu'à où ? Au niveau idée, idéologie, alors, contenu... le Parti communiste, oui, non. Les socialistes, oui, non. Je ne sais pas, moi. Borloo, oui, non. Corinne Lepage, enfin, je ne sais pas, j'en passe à des mères. Avec qui vous êtes susceptible de gouverner et avec qui celui-là je peux pas, c'est impossible, je peux pas gouverner avec.
Alors, l'alliance politique, je veux bien, mais à la limite il y a un programme derrière. Lorsque par exemple sur les retraites, les Verts jusqu'à il y a peu de temps avaient des positions effectivement qui collaient à ce qu'on peut appeler traditionnellement la gauche. Quand j'entends par exemple le discours de Dany Le Rouge. Il a des positions qui sont très proches du MoDem. Justement, très proches du MoDem ou très proches, disons, d'un réformisme.
Manu Reynaud qui répond. De où jusqu'à où ?
De où jusqu'à où ? Si vous placez sur l'échiquier politique actuel... Parce que
à l'italienne, je réfléchis là, à l'italienne,
on a réellement besoin... le rassemblement, ça nous a permis de rassembler des gens venus de divers horizons. Je vais vous citer notamment sur les questions sociales de Pierre Laroutourou, qui est un ancien du Parti Socialiste, qui est le penseur de la semaine des 32 heures, qui est le penseur de la nouvelle répartition du temps de travail, sur lequel on a beaucoup avancé, sur tout un tas de gens qui nous ont rejoints sur les questions sociales et sur les questions sociétales. Et on est en train de remettre... en place, justement, tout l'aspect idéologique et justement le cadre. Mais si vous voulez faire référence à savoir si on va regrouper du MoDem à l'extrême gauche, ben, très franchement, on peut associer des individus qui se seront retrouvés à des moments donnés, tant au MoDem qu'à l'extrême gauche. Pourquoi ? Parce que notre projet de société, parce que c'est vraiment un projet de société, c'est vrai que.
Si on fait au niveau local, au niveau local.
Non, mais aujourd'hui, on a oublié.
Dufour et Hermé, c'est pas possible.
Dufour et Hermé, oui, parce que vous le voyez sur une question, mais il s'agit pas, une fois de plus, il s'agit pas de relier des leaders. Nous, on ne veut pas de leader du MoDem, des froqués, qui, après avoir soutenu la droite, vont soutenir la gauche, fait tout ça sans aucune idéologie.
Des froqués.
Des froqués ou pas des froqués. Mais enfin, on ne veut pas de leader du MoDem qui n'ont rien porté.
Dufour, oui, mais pas Hermé.
S'il y a des électeurs qui ont pensé à un moment donné que les positions que pouvait porter François Bayrou sur ces aspects centres, elles peuvent se retrouver chez nous. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Mais les leaders, écoutez, François Bayrou n'est pas le bienvenu, oui.
Bon, on voit que quand même, Daniel Cohn-Bendit a a une puissance au niveau des Verts et d'Europe Écologie, puisque s'il y a un truc majeur qui ressort de notre petite discussion là, depuis une bonne demi-heure, c'est que vous êtes vraiment anti-fureur, anti-leader. Mmh. Bon, et là, on voit quand même tout le passé de Cohn-Bendit, 68, etc., mais son passé quand même allemand, et je rappellerai là pour nos auditeurs que, non, les Allemands, depuis 1945, ont fait un travail de mémoire extrêmement important depuis la maternelle, en passant par l'école primaire, les collèges, les lycées, l'université, justement, sur tout ce qui a été le nazisme, etc., et donc tout ce qui a été le guide, le Führer, et tout. Et en Allemagne, il n'y a effectivement pas un individu humain digne de ce nom pour être en quête d'un Führer, quel qu'il soit. Et en Allemagne, Angela Merkel n'est pas un Führer, au sens allemand du terme, c'est un chef, etc., comme Helmut Kohl ne l'a jamais été. Et donc là, Cohn-Bendit est en train de germaniser la vie politique française, mais peut-être dans un très bon sens. C'est-à-dire, si on le traduit en français, c'est-à-dire anti-bonapartiste, anti-grand chef, et donc anti-Sarkozy, bien sûr, mais où du côté de la gauche, on n'est pas en quête d'un leader, mais d'idées.
Alors là, on a fait une mutation avec Europe Écologie, avec Dany, c'est qu'on a enfin accepté, et c'est une très bonne chose, que les idées elles soient incarnées. Bon, sauf qu'effectivement, dans votre sens...
C'était désincarné avant.
Non, c'est pas facile, fondamentalement, de se retrouver avec des... Les gens, ils ont besoin de référents en termes de leaders politiques. Et ces leaders politiques, c'est vrai que nous, chez les Verts, on avait tendance à en changer assez rapidement. Et en termes
d'organisation... Ça, c'est parce que vous n'étiez pas mûr.
Possible. Vous voyez, quand le verre est mûr... Mais là on cherche la maturité.
Faut pas qu'il aille dans le mur.
On cherche la maturité. Et c'est vrai que cette question de l'incarnation des idées, Dany, avec José, avec Eva Joly, avec Cécile Duflot, qui s'est révélée durant cette campagne, bah, nous ont apporté tout un ensemble de leaders. Et vous savez, comme on est pour la biodiversité, on n'en veut pas qu'un seul. Et c'est justement pour ça.
Oh, mais... je suis sûr qu'il a vu mon conducteur. Là. Il sait qu'on en est à la fin du deuxième débat. Et bien, il a vu le petit morceau qu'on va vous proposer maintenant. Et justement, au niveau biodiversité, un petit morceau clin d'œil de Christophe Maé. Christophe Maé, c'est ma terre. Je crois que c'est un morceau que tu connais, ça. Bon, ça, c'est un petit clin d'œil pour vous, ça.
Facilement d'où l'on vient, d'où l'on part. Ça nous arrange de perdre de temps en temps la mémoire. Quand il y a danger, on regarde son voisin, c'est bizarre. Sans voir qu'on l'a peut-être laissé trop longtemps à l'écart. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre où je m'en abîmante nos peurs qu'en détournant nos regards de nos belles valeurs qui ne seraient pourtant qu'un devoir. Et si l'on apprenait à se prendre la main, à se voir autrement que des inconnus qui ne font rien des histoires. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre. Je m'assois. Ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de moi, mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas. Non. Ma terre où je m'assois. Ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. Mes repères et ma seule voix.
terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois. C'est mes frères autour de moi, mes repères. Alors quand
on est bien toujours à Divergence sur Provoscopie. Mais une émission, on en discutait évidemment pendant ce petit morceau Ma Terre de Christophe Maé, car visiblement Manu s'en fout complètement de ma terre, il n'a pas écouté le morceau. On discutait, mais on discutait de choses, je crois, relativement intéressantes dont on veut vous faire profiter, à savoir que le deuxième débat qu'on a eu juste avant ce morceau fait vraiment ressortir le fait de Daniel Cohn-Bendit, un Allemand, mais un Allemand, j'allais dire dans le bon sens du terme, devoir de mémoire et tout, qui refuse l'idée qu'il puisse y avoir un chef. Et là, on est complètement dans une autre idée de ce qui se passe en France, où les Français, eux, bonapartistes, depuis au moins 1880, et on pourrait même remonter largement avant, sont en quête d'un chef. Et là, il y a peut-être un problème. Et cette coopérative politique, il y a du boulot, quoi, véritablement, là-dessus. Alors, du boulot à venir, puisque quand on est en quête d'un chef, on n'est pas en quête tant d'un chef, quoique, à la mairie, au département, à la région, mais d'un chef au niveau national, d'un guide, d'un duce en Italie, d'un caudillo, d'un conducateur en Roumanie, d'un führer en Allemagne. Et donc, on arrive très vite aux échéances futures. Oublions, on y reviendra éventuellement sur les cantonales de 2011, et un petit peu, passons au présidentiel. Au présidentiel, il y a quand même ce traumatisme qui est resté dans toutes les mémoires du 21 avril 2002, lorsque Jospin découvre qu'il ne sera pas au deuxième tour. Et à la limite, Jospin, on s'en fout, mais quand le peuple de gauche, à 20h précises, s'est aperçu que c'était Le Pen, Chirac, ils ont même zappé Chirac, que c'était Le Pen qui était au deuxième tour, un véritable traumatisme. On avait vu un délire le 1er mai 2002, à Montpellier, des dizaines de milliers de manifestants contre, je me rappelle de ce slogan, F comme fasciste, N comme nazi, Front National, etc. Enfin, un truc complètement délirant. Là, pour 2012, on repart sur les mêmes bases, à savoir 6, 7, 8 candidats de gauche, éventuellement un candidat unique de droite, et puis dans ces cas-là, au deuxième tour, avec un FN qui pourrait bien approcher les 20%, et puis on aura le candidat de droite et puis le FN, ou alors au contraire, un candidat unique de la gauche, une droite divisée, et pourquoi pas, on serait plutôt un peu parti pour, et dans ces cas-là, ça serait quand même rigolo. La gauche et le FN au deuxième tour. Ce serait marrant de voir ce que la droite ferait, voir si la droite est aussi con que la gauche. Autrement dit, est-ce qu'elle appellerait à voter pour le candidat de gauche alors qu'il n'y aurait absolument pas besoin. Si on recense les candidats potentiels, à gauche, Besancenot, Artaud, bon d'accord, on va faire 0, ok, mais 0, plus Chivardi, 0, plus Mélenchon, plus Aubry ou DSK, peu importe. Et dans ce cas-là, plus Ségolène Royal, plus Cécile Duflot. Au centre, Bayrou, Borloo, Lepage, tous les trois capables de se présenter, et pas ensemble. À droite, Dupont-Aignan, De Villiers, Villepin, Sarkozy ou son remplaçant. À l'extrême droite, Le Pen. Il n'y en aura pas 12 d'extrême droite, Le Pen. On n'additionne pas en divisant. Alors on fait comment quand on se dit de gauche et qu'il faut faire barrage à la droite? Est-ce que vous êtes prêts à vous ranger derrière la bannière socialiste? N'espérez quand même pas que la bannière socialiste se rangera derrière la vôtre. Alors, comment vous faites au premier tour?
Faut inventer un nouveau truc, ça c'est clair. Maintenant, les idées, Dany en a donné certaines. Nous, on est en train de travailler avec tout ce qui est en train de se recomposer à plusieurs. Les socialistes ont aussi des idées sur quel peut être le candidat pour la gauche. Il y a ces histoires de primaires. Nous, on a aussi des idées de ce qu'on veut réellement.
Ah donc, vous êtes démocrate à l'américaine?
Alors, pour l'instant,
on
réfléchit sur cette histoire. Pour l'instant, de primaire, elle n'est pas actée. Nous, ce qui nous intéresse.
Non, vous êtes fraîchien quand même, quelque part.
Ah, ça, c'est impossible. C'est incompatible.
Non, mais même
c'est
si incompatible, vous n'avez pas l'homme.
Ah non, mais sur les idées.
C'est attendez. Alors là, vous ne pourrez pas dire qu'il refute, qu'il incarne une idéologie, soyons sérieux.
Ah, c'est lui qui le dit, hein, qu'il veut faire un parti de démocrate.
J'entends bien, mais enfin, si ça sera qu'avec les démocrates du Languedoc-Roussillon qui ont été exclus du Parti Socialiste, ça va pas faire lourd quand même. Donc soyons sérieux. Quoi.
Ah, ça fait déjà 15 000 gus, quoi.
Non, 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 mais attendez, 15 000 militants, je crois que c'est pas l'enjeu. Là. On n'est pas à cette échelle-là. Là, on parle de.
Non, non, au-delà concrètement. Alors, au bout du compte, un candidat unique de la gauche ou pas?
C'est le débat. C'est le débat. Nous, ce qui nous intéresse avant tout, c'est changer les politiques publiques. Dans ce pays, contrairement à ce qu'on peut croire, on change les politiques publiques quand on a des députés.
Ben là, avant, il y avait une rubrique qui s'appelait la langue de bois.
Ouais, c'est bien fait, là.
Jean-Louis Roumégas, il était tip-top sur ce coup-là. Non, non, pas de langue de bois, là. Non, alors, candidature unique ou pas?
Et moi, je pourrais vous donner mon opinion personnelle, mais je ne peux pas vous donner celle du mouvement. Celle du mouvement, elle n'est pas actée. Celle du mouvement, elle se réfléchit.
Alors, opinion personnelle.
Soyons clairs.
Opinion personnelle.
Si le Parti socialiste nous dit, voilà, vous avez 100 députés, 100 députés potentiels sur les 577...
50.
Je vous dis 100, mais c'est pas le problème. Notre problème à nous, c'est d'être en capacité de dire, et c'est, vous voyez, on fait le parallèle avec Cohn-Bendit et la démocratie à l'allemande, c'est d'être en capacité de dire... On a un groupe parlementaire à l'Assemblée et on vote ou on vote pas. Vous faites du nucléaire, on vote pas. Vous n'êtes pas majoritaire, ça se fait pas. Voilà ce qui nous intéresse. Nous, après de savoir...
Mais,
est là,
mais vous êtes contre le nucléaire. Ok. Vous voulez quoi? Qu'on pédale dans la choucroute pour faire de l'énergie?
Vous voulez un débat sur le nucléaire?
Non, mais vite fait.
On va installer des panneaux photovoltaïques au Niger. On va les faire venir jusqu'en Europe pour alimenter toute l'Europe. C'est un projet qui est en cours, hein, qui est vert.
Non,
c'est vachement écologique.
Là, vous confondez avec.
C'est européen.
Là, on confondait avec le marketing. Hein. C'est, ça n'a rien à voir.
Je fais du Danny Cohn-Bendit.
Non. On ne parle pas de communication, là. On parle de marketing. C'est pas aller mettre des panneaux solaires dans le désert. Ça n'a rien d'écolo. C'est un non-sens écologique. Ça n'a rien à voir. Ça, il s'agit d'une technologie pour produire de l'énergie. Mais c'est pas, les technologies, elles ne sont pas forcément écolo. C'est une question d'usage, c'est une question de pourquoi faire et où le faire.
C'est développement durable, pas pareil.
Ah oui, alors là comme concept marketing, on n'a pas plus creux. Hein.
Et l'écologie,
le développement durable.
L'écologie politique, ce n'est pas un concept marketing.
Mais là, non, bah,
c'est même pas partisan.
C'est même un ministère du gouvernement de Sarkozy.
Non, mais là, il dérive. Alors, en l'occurrence, puisque on ne peut pas avoir l'opinion des Verts officiels, c'est quoi ton opinion? Qu'est-ce que tu en penses? Candidature unique ou pas?
Sérieusement, candidature unique.
Pour ou pas?
Candidature unique, si c'est partagé, si le but du jeu pour nous.
Non, pas si. T'es pour ou pas
bah
pour?
Non, c'est
tu vas militer pour, tu vas faire tout ce que tu veux, tant que le secrétaire régional des Verts.
Ça dépend uniquement des conditions. L'important, c'est pas la candidature unique.
Donc t'es contre?
Bah non. Mais c'est trop simplifié comme question. Si on peut pas répondre que par oui ou par non.
Ah non, mais arrivé à un moment, si. Arrivé à un moment,
c'est. La seule condition qui compte, c'est de changer, c'est qu'on puisse parler du nucléaire dans ce pays.
Ça, c'est du 2002. Ouais, au premier tour, je vote pour qui je joue. Au deuxième tour, je voterai pour Jospin. Pas de chance.
Non, parce que.
Il n'est pas au deuxième tour.
Non, parce que là, le débat, il se pose en amont. On a la connaissance de ce qui s'est passé. Et on va faire en sorte tous que ça se passe pas. Maintenant, il faut trouver le modus vivendi pour qu'on incarne quelque chose. À l'époque, il y avait un parti socialiste hégémonique. Et le Parti Socialiste qui n'a jamais su tirer les leçons de 2002, hein, et du 21 avril 2002, pour le coup...
Il n'y a pas de raison pour que ça change.
Ben, il y a une petite donnée complètement différente.
Et visiblement, vous non plus, parce que vous repartez encore dans l'idée de la division.
Non, au contraire, on ne part pas dans l'idée de la division. On part sur l'idée de proposer quelque chose et de discuter avec eux pour trouver des solutions.
Moi, ce que je constate, c'est qu'au lendemain du deuxième tour des régionales, le Parti Socialiste a beaucoup insisté sur le fait qu'il était le premier parti, et donc le parti sur lequel effectivement les autres forces dites de gauche devraient se rassembler, se rallier. Donc en fin de compte, aujourd'hui, si je maintiens essentiellement au fait de ce que j'ai entendu, la donne n'a pas beaucoup évolué. Quant après, sur le désir des uns et des autres, de marquer son identité, montrer ce qui pèse, etc. Quand j'entends, par exemple, au sein du Parti communiste, des gens qui disent « Ouh là là, on est mélangé avec Mélenchon, il faut faire la part de ce qui est Front de Gauche hein, et de la part de ce qui est PC. » Si en plus, les rassemblements qui existent déjà doivent être coupés en petits morceaux, moi, je dis tranquillement, heureusement que la présidentielle n'est pas sur un scrutin à la Raffarin, la uninominale, Hein, parce que sinon, c'est Le Pen qui est président de la République.
Hein. Ça pourrait finir même comme ça, quoi.
Parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, qu'il puisse y avoir une diversité. Enfin, moi, je crois quand même, quelque part, que bon, on est quand même un petit peu... Et s'il y a autant d'abstention, pour revenir au début du débat, je crois qu'il y a un petit peu de ça. Parce que les gens de ce putain de pays, là, je crois que la crise...
Bon, excusez-le, il c'est son côté marseillais.
Non, non, mais la crise est dans...
Parce que c'est ça, mais genre...
Non, non, la crise est dans, etc. Il y a des gens qui se retrouvent de plus en plus en difficulté. Et on leur sert... on leur sert des sauces disant l'alliance de machin, l'alliance de truc, le truc. Bon. C'est un petit peu... c'est un petit peu compliqué, tout ça.
Et au-delà de ça... bien compris que c'était pas joué sur candidature unique ou pas. Mais les cantonales de 2011, là, c'est pas dans 20 ans, c'est maintenant, quoi. Ça pourrait quand même servir de laboratoire d'essai. Alors, comment se préparent ces cantonales pour 2011? Je parle ici dans l'Hérault. Toujours dans la division, autrement dit, on s'additionne, et puis on s'additionne, bah, si les Verts vous additionnez, même avec Europe Écologie, vous allez faire 10%, enfin bref, vous n'aurez pas de conseillers généraux. Est-ce que Vézinet, c'est vraiment le meilleur président du Conseil Général? Et si jamais vous aviez l'idée d'en changer, quelles alliances vous pourriez faire, et en l'occurrence, avec les socialistes? C'est-à-dire, pour faire tomber Vézinet, si vous voulez que ça change, il n'y a qu'une seule solution. Il faut vous allier avec les socialistes de Navarro. Pas Francis, Robert.
Alors, vous faites des cantonales qui ont lieu l'année prochaine, donc je pense à peu près...
Dans un an, à peine.
Oui, dans un an pile poil.
Ça se prépare un peu,
donc,
ça, quand même.
Donc je pense qu'absolument aucun Français n'a entendu parler, à part les conseillers généraux sortants et à la limite les partis politiques.
À divergence, les auditeurs...
On a fait des régionales les 8 mois, on s'est pas trop trompé. Hein. Il y a déjà 8 mois.
Pour le coup, nous, le calendrier, et le calendrier d'Europe Écologie au niveau national, il est fixé, on aura des assises de l'écologie politique en automne, et c'est à partir de là qu'on pourra voir dans quelle optique on se place. Ça, c'est au niveau national. Au niveau local, il est sûr qu'on va tenir compte des enseignements des élections régionales. Il est sûr qu'on a appris dans ces élections. On parlait, effectivement, c'est pas un échec. Il y a 26% des gens qui étaient de la gauche et des écologistes qui ont pu être représentés. C'est pas une petite chose. On a eu un score...
On entend l'UMP, là. Ouais. Langue de bois.
C'est
un échec total.
C'est un échec stratégique clair. Néanmoins, en termes de représentativité dans cette région, il y a 26% des gens qui n'ont pas été présents au second tour. Mais je veux dire, l'échec, il n'est pas tant, c'est une certitude, mais c'est un échec stratégique. En termes de représentativité, Europe Écologie a fait un score qui est tout à fait honorable dans cette région, et c'est un score sur lequel on peut ensuite faire des choses avec des partenaires. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et on a on peut monter beaucoup plus, quoi.
Après, la question, ça va être en 2011, parce qu'il n'y a qu'une seule question pour le Conseil Général de l'Hérault, c'est Vézinet, pas Vézinet, quoi. Est-ce qu'il est reconduit ou est-ce qu'il n'est pas reconduit?
Une question de chef.
Pour pas qu'il soit reconduit, vu la situation électorale départementale, bon, bah, il faut faire des alliances. Il faut faire des alliances avec qui? Les seuls qui peuvent faire tomber Vézinet, c'est quand même les fréchistes.
Oui, mais
alors, dans ces cas-là, il faut reconduire Vézinet et dire bravo Vézinet, vive Vézinet.
Alors, vous savez,
où vous en êtes? Et peut-être que d'ailleurs, dans ces cas-là, vous faites campagne avec Vézinet et puis vous le reconduisez. Mais j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec la politique de Vézinet. Mais enfin, vous n'étiez pas d'accord avec la politique de Mandrou, puis vous pouvez vous allier avec au municipal et vous allier au deuxième tour avec. Alors,
je vais vous faire beaucoup plus simple. Parce qu'André Vézinet, déjà, il faut rendre hommage à quelqu'un. Pour le coup, je ne vais pas parler de sa politique, je vais parler de son attitude dans le cadre de la gauche. Il faut rendre hommage à quelqu'un qui a toujours su tenir le cap à gauche, et notamment, bizarrement, avec les écologistes. Il était le premier, pendant les municipales, notamment en 2008, à proposer une alliance avec les écologistes, qui sont les partenaires naturels au sein de la gauche. Maintenant, on n'est pas toujours d'accord avec André Vézinet. Je peux même vous citer moi-même des exemples sur lesquels on n'est pas d'accord. Sur le rond-point d'Alco, sur la politique des routes. Oui, on a des divergences. Maintenant...
Mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur le rond-point d'Alco? C'est quand même un moyen de supprimer un bouchon. Donc vous êtes pour les bouchons ou... Je comprends pas, là. Au lieu de deux ronds-points, ils en font qu'un seul, au rond-point d'Alco. A priori, ça devrait être plutôt fluidifié.
Sur la politique des routes et par rapport à ce rond-point d'Alco, très objectivement, le projet qui a été proposé sous prétexte de faire circuler les voitures plus vite, ce qui n'est pas un but en soi, je vous le rappelle, parce que les embouteillages ne sont pas forcément provoqués parce que les routes sont trop petites, hein, ce n'est pas le problème, mais c'est qu'il y avait un projet d'aménagement sur le rond-point d'Alco avec une esplanade piétonne, avec quelque chose qui correspondait plus à des modes de transport, qui avait une utilisation de l'espace qui était beaucoup plus intéressante. Et oui, nous, on avait une contre-proposition.
Mode de transport d'Alco pour aller en centre-ville, ça s'appelle les chaussures, hein.
Ah non, mais ça va s'appeler aussi le tram, ça va s'appeler les transports en commun, ça va s'appeler à plein de choses. Et là, l'histoire de la route et du RD65 et de toute la route, hein, qui a été doublée avec des ponts et tout ça, ça ne poursuit pas les mêmes optiques que celles qu'on peut poursuivre.
Alors, on arrive au terme de l'émission. J'aurais juste une dernière question. À propos des cantonales, à propos des présidentielles, et si la fin justifiait les moyens ? La fin justifie les moyens. Vous êtes pour ou vous êtes contre ?
Par principe, non.
Et en pratique ?
Et en pratique, pareil qu'en principe. Qu'est-ce que vous appelez justifier les moyens ?
Oh, je me réfère à Machiavel, enfin, qui n'a d'ailleurs jamais écrit ça dans Le Prince, mais dont on en a fait la synthèse en disant la fin justifie les moyens.
Pas plus en principe qu'en pratique.
Donc ça non. Donc vous n'êtes pas prêt à perdre votre âme ?
Jamais.
Jamais. Voilà. Alors, je vais me la jouer chancel. Mais vert que vous êtes, avez-vous une âme ?
C'est dur comme ça. Moi, je pense qu'on a vraiment plus qu'une âme. En plus, on a même des idées. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose de fantastique.
Une âme et même des idées. Alors, divergentes et divergents, on va conclure là-dessus. On a vu que les Verts étaient germanisés, qu'ils avaient non seulement une âme, mais des idées. Quoi qu'il en soit, en ce qui nous concerne, on part en vacances. Donc, on se tire. Donc, lundi prochain, c'est lundi de Pâques. On ira se faire sonner les cloches. Et puis, pour les 15 jours après, eh ben alors là, on ira... je sais pas si le renard ira à Bali, parce que lui, quand il sait pas quoi faire, il va à Bali.
C'est le communiste des plages.
Ouais.
C'est...
En ce qui nous concerne, c'est vacances.
C'est vrai que c'est pendant fête aujourd'hui. Hein.
On se retrouve donc le lundi 26 avril avec une émission qui risque d'être relativement animée, puisqu'il est fortement question que dans nos studios, on est Patrick Vignal et Philippe Sorel pour débattre de l'avenir de Montpellier. À dans un mois, et bien le bonjour chez vous.
Bonsoir.
Bonsoir.